Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu ici, pourquoi moi je suis venu ici en tant que coproducteur et coproducteur d'un film que je tourne actuellement avec quelques amis qui s'appelle Numéro 2. Et je suis venu ici à la demande des coproducteurs associés qui sont M. de Bourgard, M. Bétou et M. de Bourgard qui coproduisent Numéro 2 avec notre société. Notre société s'appelle Son Image. Chaque fois que les postes nous demandent comment ça s'appelle, on dit Son et Image, mais en un seul mot. Il y a mon image, il y a ton image, il y a son image. Bon, maintenant, je suis là pour faire mon boulot, répondre à des questions si vous en avez. Voilà. No translation. If you speak English or ask a question in English, I'll try to answer the same language, but...
Oui, Gilles Rinon de Radio Monte Carlo. Je crois savoir que vous tournez sous ce titre, ce qu'on appelle un remake, plus ou moins, de À bout de souffle, qui a été, chacun le sait, un grand film dans l'histoire du cinéma des années 60. Je voudrais vous demander... comment se situe ce numéro 2 par rapport à bout de souffle? Pourquoi vous tournez ce numéro 2 et quelle différence il y aura par rapport à bout de souffle? Et autrement dit, quelle sera votre idée, qu'est-ce que vous comptez mettre comme différence donc, par rapport à ce film de 59, si j'ai bonne mémoire?
Ben, il y a 4-5 mois, De Bourgard est venu me voir et m'a demandé si j'avais pas envie d'essayer de faire un film, disons, dans... pour être distribué un peu plus classiquement. Depuis 3-4 ans, on avait essayé, avec l'argent qu'on gagnait, de monter un petit studio d'audiovisuel indépendant, un peu vidéo, un peu 16 mm, pour être un peu indépendant, de manière que si... Bon, qu'on fasse des films très, très, très bon marché, puis qu'on essaye de gagner un peu d'argent avec eux, mais surtout pas travailler suivant la filière... habituel qui, moi, me privait peu à peu d'idées. Et néanmoins, enfin, le studio qu'on avait monté, on avait du mal car on n'intéressait personne. C'est un peu de la recherche, c'est un peu autre chose. C'est pour ça que je vous en parle avant de parler numéro 2, si vous voulez, car c'est quand même mon histoire et numéro 2. C'est un... Bon, il y a eu un numéro 1 et finalement, c'est assez bien que ça s'appelle numéro 2. En fait, c'était un... Bourgard m'a dit, tiens, si on faisait un remake d'À bout de souffle, c'est moi qui lui ai dit, ou je m'en souviens plus, peu importe, et puis le film est parti, j'ai dit bon, mais parce que j'avais besoin d'un peu de financement. Et qu'effectivement, aujourd'hui, puis je lui ai dit, mais écoutez, faire un remake, finalement, ce qui m'intéresse, c'est même la notion même de remake, c'est refaire, c'est pas faire, c'est refaire, puisque moi, je refais ma vie d'une certaine manière, de cinéaste d'une autre manière, donc ça m'intéresse, et dans À bout de souffle numéro 2, ce qui m'intéresse, c'est numéro 2, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait le... numéro 2, entre parenthèses, d'après À bout de souffle, car il faut dire la vérité. Et je trouvais que le plus intéressant, c'était le vrai remake était économique. C'est reprendre la même somme d'argent 15 ans après, alors que le loyer, enfin, ou le prix de l'argent a été multiplié par 3. Reprendre les mêmes producteurs et coproducteurs, c'est-à-dire moi, le vrai producteur du film au sens marxiste, c'est-à-dire celui qui crée avec les travailleurs du film, et puis les deux coproducteurs financiers, M. de Bourgard et Bétou, qui avaient déjà produit À bout de souffle autrefois, et de dire quand même nous sommes des gens, c'est pas pour nous vanter, mais nous sommes quand même assez exceptionnels, puisque pour le même prix, nous pouvons faire non seulement la même chose, mais pour presque 3 fois moins cher. Aujourd'hui, un film fait en équipe normale, en noir et blanc, avec 2 petits acteurs inconnus qu'on paye 1 million ancien, c'est pas possible de faire, avec la TVA et les charges sociales, c'est pas possible de faire pour moins de 80 ou 100 millions anciens. Or, nous refaisons exactement la même chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que je tenais à prouver, c'est le système économique audiovisuel que nous installons. Nous aurions pu même le faire pour beaucoup moins cher, mais il fallait qu'on gagne, nous, de l'argent. Moi, j'avais été payé 1 million ancien sur ce film-là en tant que metteur en scène. Aujourd'hui, en tant que coproducteur, on peut gagner 30 ou 40 millions, comme ça, ce que j'estime. Si le film coûte 60 millions au départ, une assez bonne affaire. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que tous les jeunes cinéastes, ou tous mes confrères, enfin, ne soient pas du tout intéressés à ça, ne fût-ce qu'à gagner de l'argent pour pouvoir faire un petit peu d'autres films que ceux qu'ils supplient les banquiers ou les producteurs de faire. Et c'est un peu une démonstration, c'est pour ça que je suis venu à Cannes, par exemple, pour pouvoir dire ça, que ça me paraît être un système tellement imbécile et bête que je pense que c'est le plaisir des gens de travailler comme ça. Effectivement, on se sent assez seul, car on travaille d'une méthode tout autre. Et moi, je me suis aperçu peu à peu ce qui m'a privé d'idées. C'est pour ça que pendant 4 ou 5 ans, j'étais très content de rencontrer un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Gorin, dont l'originalité était de ne pas pouvoir travailler seul. Comme une femme ne peut pas vivre seule, elle a besoin d'un mec à un moment donné, ou un mec a besoin d'une femme, enfin, pour faire des enfants, ou pour faire quelque chose d'autre, ou des choses comme ça. Et le seul cinéaste original que j'ai rencontré dans ma vie était ce garçon, Jean-Pierre Gorin, dont l'originalité n'était pas de vouloir faire des plans à la Hitchcock ou à la Eisenstein, était d'abord de vouloir passer, enfin, s'inscrire sur le film avec quelqu'un d'autre. Et il a fait des films avec moi, et moi j'ai fait ses films. Et un film comme Tout va bien, par exemple, qui est un film de Jean-Pierre Gorin, c'est un des premiers films que je considère vraiment de moi, bien j'en ai fait que 5 ou 6%, comme un enfant que je peux avoir avec une femme, je peux ne pas l'avoir porté 9 mois et considérer quand même comme mon enfant. C'était ça qui m'intéressait. Bon, je dis beaucoup de choses, il y a peut-être d'autres questions, je n'ai pas répondu là.
Il y a à peu près 15 ans exactement, vous trouvez à Berlin, vous donniez votre conférence de presse pour le lancement d'un bout de souffle, avec Belmondo à vos côtés. Est-ce que d'une certaine manière, après beaucoup d'expérience, c'est une façon de renouer différemment même avec un certain passé?
Ah non, absolument pas. Ce qui est un... Si vous voulez, à bout de souffle, bon, c'était mon premier succès, et c'est le seul. Et enfin, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je me sens des gens comme... Je vous considère comme beaucoup plus exceptionnels que moi aujourd'hui, si vous voulez. Je n'ai pas du tout envie, moi, de venir à Cannes, dans cet endroit-là. Ce n'est pas un endroit où je viendrai aujourd'hui, naturellement. Je me souviens que j'y suis allé autrefois. Et ce qui m'étonne, c'est l'attention absolument démesurée que vous portez. Finalement, de repenser à bout de souffle, m'a fait demander, mais comment ai-je pu être connu comme ça? Car après tout, moi j'ai dit ce qui me passait par la tête, et puis je me suis aperçu que rien que ça, dans le cinéma où les gens rampent devant, ne disent pas simplement ce qui leur passe par la tête, mais disent, je sais pas, ce qu'on leur dicte, tout en leur faisant croire que ça vient d'eux, rien que ça, je crois, a fait le succès d'À bout de souffle. Ce qui m'a toujours frappé, c'est ce que je vous disais, genre, À bout de souffle, c'est un film dont j'ai toujours eu honte quand je le voyais, alors qu'il y a d'autres films de moi que j'aime bien revoir. Il y a des passages que j'aime moins bien, il y en a que je trouve assez beaux et assez réussis, puis je suis assez content. À bout de souffle, c'est un film, si je le vois et que je ne peux pas voir, justement, je me mets à transpirer, à me sentir, je ne sais pas, comme il me sentira, forcé d'être à poil à un moment où je n'ai pas du tout envie de l'être. Et ça m'a toujours paru assez bizarre. Et aujourd'hui, où je réfléchis dessus, sur ce numéro 1, que j'ai un peu, où j'ai été à la fois le patron et l'ouvrier, l'usine et le paysage, les deux ensemble, je me demande comment ça se fait. Je me suis aperçu finalement que c'est un film où j'ai travaillé, enfin un truc qui m'a frappé. À l'époque, il a été, et c'était assez juste, je me suis rebellé contre ça pendant un moment. C'est un film qui a été le petit soldat après, puis après ça a diminué, mais c'est un film qu'une partie d'une critique dite de gauche avait accusé d'avoir beaucoup d'aspects fascistes. Et aujourd'hui, je vois que c'était pas du tout faux, mais la critique, vu ce qu'est la presse, c'est pas étonnant, ne peut pas en dire beaucoup plus, mais il y avait quelque chose de juste. Et ce juste, c'est en fait, enfin pour moi, c'est un film qui sortait du fascisme. Et ça, on l'a pas dit. Et moi, j'ai mis effectivement une quinzaine d'années, effectivement, à sortir et aujourd'hui à faire un peu d'autres films. Et c'est en ça que je peux être intéressant, par exemple. Mais si je le dis, et que je le montre. Et l'intéressant dans Un bout de souffle, c'est que c'est un film qui sortait du fascisme, mais qui avait plein de teintes fascistes. Fascisme, effectivement, le cinéma, mais d'où est-ce qu'il venait, son modèle était le film américain de gangster, mais le film américain de gangster a été créé par qui ? Il a été créé par deux personnes, par Joseph von Sternberg et Benesch, avec les Dogs de New York, dont Scarface après n'était qu'un, et les Nuits de Chicago, dont Scarface après n'était déjà qu'un remake. Mais d'où venaient M. von Sternberg et Benesch, qui c'était à l'époque des gens plein de talent ? Ils venaient quand même de l'Allemagne nazie. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons un petit projet de film qui s'appelle Aspect inconnu de l'histoire du cinéma, où on montrera justement, c'est pas par hasard que le premier film à grand succès qui a créé deux émigrés juifs, même avant l'avenue de l'hitlérisme officiel, a été un film de gangsters, et qu'après nous montrerons aussi ce qui me semble des trucs intéressants à dire. Alors, comment Sternberg a éclairé Marlène Dietrich, mais il l'a éclairé exactement avec le même type d'éclairage que Speer avait utilisé pour les grandes manifestations hitlériennes. C'est des choses comme ça. Or, à bout de souffle, qui était nourri de ça, avec 20 ans de cinémathèque dedans, effectivement, à bout de souffle est un film qui essayait à ma manière, à moi qui suis en plus enfant de vichistes et de banquiers protestants, effectivement, c'est un film qui essayait très maladroitement et très sincèrement de sortir du fascisme. Et il y avait plein de jeunes cinéastes que j'ai remplacés, dont j'ai pris la place, et qui auraient dû faire ce film chacun à leur manière. Et puis, comme moi je l'avais fait, ils l'ont vu, puis ils ne l'ont plus fait. Et puis ce film a eu un succès de cinéma, si vous voulez, et il en a eu beaucoup trop. Et moi, ça m'a à la fois fait du bien, puis beaucoup de mal. Et aujourd'hui, je cherche simplement à me reprendre moi-même. Ça consiste à un moment donné à quitter Paris, parce que on peut plus. C'est pas la peine de travailler. C'est pas la peine de travailler là-bas.
Par rapport à ce que vous dites, entre Un bout de souffle et le film que vous préparez, quel rapport va-t-il avoir entre la mémoire et l'histoire, votre mémoire de l'histoire et l'histoire tout court, les années entre les deux?
Ben là, on peut reparler un peu de numéro 2. Donc, si j'ai expliqué tout ça, c'est pour dire, moi, ça m'a intéressé finalement, non pas reprenant ma vie à zéro, de repenser, on me dit à bout de souffle numéro 2, après tout, c'est mon premier bébé de cette manière-là, il faut en refaire un autre, donc il faut être autrement dans l'usine, il y a beaucoup de choses à retrouver. C'est me repencher sur le numéro 1, et puis effectivement essayer de savoir qu'est-ce qui fait que d'un numéro 1, on va à un numéro 2, puis ensuite un numéro 3. Finalement, moi, de repenser à bout de souffle, ça me fait aller 15 ans en arrière. Si je reviens aujourd'hui, ça me fait de nouveau 15 ans. 15 plus 15, ça fait 30. À 45 ans, aujourd'hui, ça me fait donc 75 ans. Donc, j'ai un peu le droit de commencer à parler. À commencer à parler de ma mort, mais d'une autre manière. Alors effectivement, parler de la mort fait penser à la naissance, et finalement le seul sujet numéro 2, c'est il y a trois types de personnages, il y a les petits, les grands et les vieux. Et puis ça s'appelle numéro 2, puis c'est ça le film, et puis vous verrez. Il a été tourné un peu autrement, ça je trouve intéressant de vous dire, intéressant parce que personne ne trouve intéressant de tourner comme ça. Je me suis aperçu que si on n'avait plus d'idées dans les films, si mes anciens copains comme Truffaut ou Rivette n'avaient pas plus d'idées que les mecs qui, sur les kits, ils tombaient à bras raccourcis il y a 20 ans, ben, c'est simplement qu'ils font tous leurs films suivant le même système qui est très facilement... on peut décrire très facilement, c'est un certain nombre de millions multiplié par un certain nombre de semaines multiplié par un certain nombre de gens. Alors si vous avez 800 millions, vous les dépensez en 20 semaines, c'est pas un système de gain, c'est un système de dépense. Le système de gain, c'est ceux qui contrôlent cette dépense, qui est une chaîne encore plus grande que ça. Mais le cinéma, c'est un système, ou la télévision aussi, c'est un système de dépense. On dépense un certain nombre de millions, multiplié par un certain nombre de personnes pendant un certain nombre de semaines. Et c'est cet assemblage de 1, 2, 3, et on en revient toujours à ces systèmes 1, 2, 3, dont, et moi j'ai choisi là d'amplifier le côté 2, qui fait, je me suis aperçu que moi ça n'allait pas, que j'ai 800 millions fois 80 personnes fois 20 semaines, ou que j'ai 50 millions fois 5 personnes fois 4 semaines, je fais absolument aujourd'hui le même film. Le circuit est intégré, économiquement, socialement, politiquement, sexuellement, comme vous voulez. Monsieur Rivette fait le même film que Monsieur Verneuil. Et à un moment donné... Non, mais le même film, j'entends, entendons-nous, le même type de film, le même film exactement, je veux bien. Pour moi, moi je vais beaucoup au cinéma, je préfère aujourd'hui les films commerciaux aux films d'art. Si vous voulez, à un moment, je me dis, quand je vais voir Le Parrain, au moins, ben, j'ai un contact avec le peuple américain, c'est que j'ai payé 3$ pour poser mon cul, et qu'il y a 80 millions d'Américains qui ont fait la même chose. Donc, au moins, la liaison avec le peuple américain, elle a été réelle pendant 2 heures, mais c'était avec mon cul, mais c'est pas... Encore faut-il avoir l'honnêteté de le dire, et puis partir de là. Parce que sinon, on se fait sérieusement enculer aussi. Alors, l'intéressant, ce qui m'a petit à petit frappé dans ce que je faisais, car si vous voulez, je ne tiens pas à juger les autres et à dire du mal de d'autres, plutôt à essayer de dire comment je fais, qu'on puisse mieux me critiquer, pour que moi, à mon tour, je puisse demander aux autres, et toi, que fais-tu et comment le fais-tu? Ce qui m'a petit à petit intrigué, c'est qu'il y avait beaucoup de techniques dans ce métier, dans le cinéma ou dans la télévision, et qu'en même temps, on en était complètement séparés. Moi, je le voyais une caméra, que chaque fois que je la faisais louer pour un film chez Chevreau, pareil pour un magnétophone. Un laboratoire, je le voyais une fois tous les 6 mois, si je faisais des films tous les 6 mois, sinon une fois tous les 4 ans. Et ça m'a... Or, tout ça fait partie de la même chaîne. Et donc, j'étais simplement un mec sur la chaîne, privilégié bien sûr par rapport à un mec chez Renault sur une chaîne d'automobile, mais quand même un mec sur la chaîne qui ne savait absolument pas ce qui se passait dans l'atelier voisin. J'avais des ondits, bon, je savais qu'il y avait des monteuses, je les voyais de temps en temps, je savais qu'il y avait des vieilles dames qui vérifiaient pour une misère des copies de films dans tel sous-sol de telle grande compagnie de distribution, des choses comme ça. Mais je ne les voyais pas. Je savais qu'il y avait des machines de 8, des tireuses Bellowell de 800 millions, mais je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Et finalement, je me suis dit, ce qui ne va pas, c'est qu'effectivement, ce que je fais, le film, et moi, je fais partie de la chaîne, le film court toute la chaîne, puis moi, je suis toujours au même endroit. Bon, l'opérateur, il est toujours au même endroit. Moi, j'ai toujours le crayon, c'est toujours moi qui dois inventer. Mais finalement, comme je gagne de l'argent, j'arrive opprimer même les autres à cause de ça. L'acteur, il est toujours devant, moi toujours derrière. Le figurant, il figure toujours. L'opérateur, bon, il fait comme machin, il fait le zoom. Une fois qu'il sera rapproché de moi, il fera zoom arrière parce qu'il s'ennuiera. Et c'est tout. Et puis, bon. Mais j'ai toujours dit... Et puis à un moment donné, le producteur me dit, Jean-Luc, ça va pas ces dialogues. Bon, alors je lui sors mon crayon et puis je lui dis, mais attends, je l'ai pas là. Et je lui dis, ça va pas. Mais voilà, vous l'écrivez. J'ai dit à Carlo Conti, ça va pas les dialogues du mépris? Mais Carlo, allez-y, écrivez-le, moi je le filme, je suis payé pour ça. Mais lui, il ne voulait pas écrire. Alors il voulait à la fois gagner de l'argent, il voulait en plus que je travaille, que je me crève le cul à trouver des idées, enfin de créer, de faire un enfant, ça, c'est se crever le cul, c'est fatigant. C'est beau, c'est agréable, mais en même temps c'est fatigant. Mais lui, il voulait... Mais absolument rien faire du tout. À un moment, ça ne va pas. Alors, il faut que je sois un peu lui, un peu moi, un peu lui, un peu ça. C'est trop, effectivement, mais reparcourir la chaîne. Et à un moment donné, de ces 3 ou 4 dernières années, l'évolution de la technique permet un tout petit peu, au moins, de revoir toute la chaîne. L'arrivée de la vidéo un peu meilleur marché ou semi-professionnelle me permet, moi, d'avoir au moins une image de toute la chaîne. J'ai une cam... Même si je tourne en cinéma, je ne pose pas du tout télé, cinéma, vidéo ou des choses comme ça, mais le fait d'avoir la caméra, de voir une régie par laquelle ça se passe, ensuite le son qui court à côté, puis ensuite de voir le résultat sur un tel, même pas le résultat, une ébauche d'idée ou quelque chose. On veut travailler extracteur, on va lui faire dire quelque chose, on tourne, on met de la lumière. On voit que cette lumière sur l'écran de télévision n'est pas très bien, ça ne va pas. On est déjà le premier spectateur, mais étant le premier spectateur et ayant parcouru toute la chaîne, bah pour la première fois, moi j'ai une liaison un peu plus réelle avec tous ces spectateurs inconnus que je ne connais pas, que je ne tiens pas du tout forcément à connaître. Mais je peux me dire au moins, bah, y a peut-être 300 000 personnes comme moi en France qui aient à peu près les mêmes idées que moi. C'est à eux que je m'adresse, c'est mon problème. Si je veux gagner 300 000 francs par mois, qui est mon salaire que je trouve tout à fait bien et normal, ben, il faut au minimum que je fasse un film qui ramène 300 000 entrées chaque mois à 1 000 francs, ou 300 films à 1 000 francs, ou quelque chose, ou 300 diapos à... Mais c'est déjà un truc beaucoup plus réel que je dire, et beaucoup moins mensonger ou hypocrite que de dire comme un Verneuil, moi je respecte le public. Mais il ne peut pas le respecter, il ne voit jamais. Comment peut-on respecter le public, le facteur de San Francisco, lui, Verneuil, habitant, je ne sais même pas qu'il soit riche ou pauvre, c'est un mensonge. Moi, au moins, j'avais l'honnêteté de dire, je m'en fous du public, je ne le connais pas. Et cette honnêteté-là me permet aujourd'hui d'être plus réel, de dire effectivement, j'ai besoin de communiquer, car moi, je meurs de ne pas communiquer, mais de trouver une manière un peu plus réaliste. Bon, tout ça se fait pas comme ça, c'est pas bien sûr, mais c'est pour vous dire un peu où on est. Le cinéma est particulièrement, je crois, intéressant, et intéressant à briser, mais comme on brise un noyau atomique, ou comme on brise une cellule biologique et puis qu'on l'examine, parce que le cinéma sur un petit laps de temps et d'espace représente un microcosme, enfin très très complet de la société dans lequel il se passe, beaucoup plus que la télévision, qui est déjà une espèce d'amplificateur du cinéma d'une autre manière, est très intéressant pour ça aussi. Mais le cinéma, c'est ce qu'il y a de plus socialisé, c'est l'endroit où pendant la même journée, à 5 mètres de distance, on entend prononcer aussi bien le mot traite que le mot Eisenstein, que le mot beauté, que le mot... Enfin, des tas de choses. Dans aucun autre endroit salarié, où il y a des salariés, c'est extrêmement intéressant. Moi, ce qu'on essaye de faire pour nous, c'est de créer déjà pour nous, à deux ou trois, un petit atelier qui puisse arriver à survivre sans devoir mendier et se mettre à genoux comme... tous les gens qui vendent des films ou qui essayent de trouver des sujets ici, absolument. Moi, je ne peux pas... C'est ça qui va... Et en plus, vu le système, enfin, vu l'accélération de l'histoire qui va en même temps vite en avant et vite en arrière, les films se ressemblent encore aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Ça nous permet, si vous voulez, d'étudier, mais sans être forcé de produire à échéance fixe. De diviser l'image par des techniques vidéo pour, si on fait un film strictement cinéma, par exemple, réunifier autrement, exactement comme le Vietnam a été divisé, ils ont accentué la division, puis aujourd'hui ils recommencent une image un peu unifiée du Vietnam. Mais il a fallu 30 ans de division.
Quand vous dites « on », c'est qui « on » cinématographiquement et politiquement ?
Politique. Je peux vous dire sexuellement et amicalement, non, c'est Anne-Marie et moi. Anne-Marie, une fille qui fait des photos en Suisse à l'heure actuelle, qui travaille. Il y a Gérard qui travaille un peu avec nous parce qu'il s'intéressait à ça pour l'instant. On est deux ou trois. On est un technicien, on a pris notre premier technicien parce qu'on a du matériel assez professionnel et qu'on ne sait pas encore. Moi, j'aimerais bien mieux être directeur de l'IDEC pour 3 ans, si vous voulez, pour avoir le... Non, mais pour former, pour apprendre à former des gens qui ne sortent pas de l'IDEC ou d'une autre maison, ultra spécialisés comme ils sont. Ce qui font qu'ils sont... Les films qu'ils vont faire sont déjà morts avant même d'exister. Ce qui m'a toujours frappé quand un caméraman de l'ORTF venait faire des interviews, c'est qu'il était toujours accompagné d'un journaliste. Et que si on essayait de parler au caméraman, c'était pas son métier. Par contre, si on essayait de faire prendre la photo par le journaliste, il pouvait pas non plus. Alors aujourd'hui, on aboutit à des trucs absolument tragiques, comme, je ne sais pas, Le Monde est considéré comme un des journaux les mieux. Et moi aussi, puisque je le lis pour avoir des nouvelles, je le considère comme un peu. Puis quand, par hasard, il fait un truc sur moi, je m'aperçois que c'est, ça n'a aucun rapport. Alors je me dis, alors je le crois quand c'est sur Phnom Penh, plus que Le Figaro, puis quand c'est sur moi, mais j'en crois pas un mot. Mais ça, et puis ça vient d'un seul truc, c'est qu'ils ne font pas de photos, ils font qu'écrire. Ou que ceux qui font des photos, ils n'écrivent pas. Les meilleurs journalistes, pourquoi c'est les 3 ou 4 dessinateurs de Charlie Hebdo? Mais simplement parce que leur main ne fait pas uniquement du gauche-droite et un truc comme ça, qui finit par faire une espèce de balayage d'images de télévision. Leur main, elle fait ça. Elle, à des moments, ils ont besoin d'écrire. C'est pour ça que GB ou Volinsky ou d'autres sont effectivement les seuls journalistes possible, meilleur, je ne sais pas, mais c'est les seuls qui soient de temps en temps intéressants, pas simplement parce qu'ils font encore. Et puis leur œil fait un tout autre travail en suivant. Ben, moi, à mon endroit, avec des images et des sons, d'une autre manière, j'ai envie de faire autre chose. Moi, je pense que j'ai fait une ou deux grandes découvertes scientifiques, mais comme je suis un cinéaste, on ne m'a pas cru. J'ai découvert il y a 5 ans, ou il y a 6 ans, un truc qui s'appelle la transcriptase inverse. Et vous savez peut-être que l'ADN, en biologie, il y a l'ADN qui crée de l'ARN, enfin, c'est comme ça, que se crée comme ça qu'on explique que se crée la vie. Puis pendant un moment, on a dit ça va que dans un sens. Puis je sais pas, un jour, j'ai dit à, parce que c'est mon cousin, je le voyais tout à fait par hasard au professeur Monod, écoute, ça me paraît un peu bizarre que tu dis ça va toujours, puis c'est pas possible, à mon avis, ça doit aller dans l'autre sens, et puis schématiquement, moi je le dessinerais comme ça, et puis il m'a dit, tu rigoles, on voit que tu sais pas ce que c'est. 4 ans après, il y avait un nommé Thomin qui a découvert la transcriptase inverse, puis qui a eu un prix Nobel pour ça, moi je l'avais découvert. Mais effectivement, on n'est pas pris au sérieux, parce que c'est fatigant, et qu'il faut travailler. Or, les gens de cinéma, il faut... sont effectivement un modèle de la société à laquelle on est arrivé aujourd'hui. C'est des modèles de paresse absolument complètes qui essayent de tout faire les uns par les autres. Alors, vous avez le producteur, effectivement, qui veut rien foutre mais gagner des ronds, donc qui cherche un jeune auteur pour je sais pas quoi. Mais le jeune auteur veut pas foutre non plus, veut pas aller à la banque, s'occuper de la TVA, puis s'occuper des agios. Ça lui ferait voir ses scénarios un peu autrement. Il ne veut pas non plus. Mais il préfère dire ses comptes producteurs. Ben, moi, si vous voulez, je préfère dire ce compte producteur. Mais ce compte producteur, c'est moi. Mais je préfère penser ça de moi. Je préfère penser ce... Effectivement, À bout de souffle m'a beaucoup intéressé, que c'était un film qui sortait du fascisme. Et donc, il y avait une partie de moi qui était fasciste. Et c'est tout à fait vrai. Ben, je préfère le dire. Effectivement, il y a 2 parties de moi. Et probablement, si j'avais été... probablement que si j'avais vécu en Allemagne, eh ben, j'aurais fait partie de ces 80 millions d'Allemands qui, à un moment donné, ont reçu une pomme de terre et comme ils étaient au chômage, ils ont voté pour le fascisme. Il faut mieux partir de là. Ce n'est pas des trucs définitifs, mais il faut mieux en partir.
Justement, dans ce sens-là, est-ce que tu ne vas pas tenter de ne pas laisser ton produit entre les mains des spécialistes de la distribution ?
Eh là, effectivement. Le drame aujourd'hui, par exemple, numéro 2, on produit une image avec nos moyens qui sont relativement... Qu'est-ce qu'on a ? On a dépensé environ, on a mis 3 ans à dépenser 150 millions de matériel. Par rapport à l'ORTF ou des choses, c'est pas grand-chose. Par rapport même au prix d'une tireuse Benowell ou d'un auditorium, c'est pas grand-chose. On peut produire, mixer, mélanger en 16 mm. On a des machines même. En France, on a apporté des machines de type Zandor qui sont les plus élaborées, des machines que ni Schlumberger ni Perfectone ne sait faire. Nous avons une table de montage Super 8 qui nous sert, Steinbeck Super 8, qui nous sert de projecteur couplé avec du 16 mm. Nous sommes les, quand on dit ça à la commission supérieure technique au centre du cinéma et qu'on dit aidez-nous un peu, pareil, quand on dit au CNRS aidez-nous, on a des idées pour faire des films sur le cancer et nous avons sûrement nos idées à apporter, mais tout autrement, plutôt que d'examiner des petites plaques de vie biologique, nous allons examiner des grandes plaques de vie sociale. Nous allons analyser un embouteillage place de la Concorde. Et nous allons analyser un discours de Fourcade parlant de l'inflation. Et nous allons apporter des éléments intéressants pour la lutte contre le cancer. Nous, on est pris pour un guignol. Pourquoi? Parce que alors parce qu'on était tous des, et moi je le sens comme ça, on est des victimes de Gutenberg. C'est Gutenberg et l'écriture qui est plus fort que jamais, sous prétexte que l'audiovisuel triomphe. C'est pas vrai, on ne voit plus. Moi je suis à moitié aveugle, et comme mon métier, à des moments je sens très bien, j'ai très très mal aux yeux, mais j'ai très très mal aux yeux, je sens, parce que me passe dans les yeux ce que je parle plutôt que de voir, et mes yeux sont forcés de lire plutôt que de voir. Les enfants, on voit très bien aujourd'hui, perdent le sens de la vision beaucoup plus tôt qu'il y a une cinquantaine d'années, ou même une vingtaine d'années. C'est ces trucs-là intéressants. Or, je pense qu'on peut bénéficier de techniques légères et que momentanément, si tu veux, l'industrie japonaise, par exemple, qui est concurrente de l'américaine ou de l'allemande, peut aider des jeunes. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'aucun de, soit de mes anciens camarades, soit des jeunes, ne soit absolument intéressé. Je vois toujours des jeunes cinéastes qui mendient et qui essayent de faire en pauvre des trucs de riches qu'aucun peuple qui se libère n'a jamais fait, ou ça a toujours foiré. Ah bon, je réponds tout à côté. Non, alors c'est ça. Non, ce que je disais, nous, on a produit par exemple une image, on a décidé de le faire en 16 mm, puis finalement on a préféré risquer le coup et puis le faire en vidéo, parce qu'on avait du matériel qu'on avait envie d'étrainer, puis que c'était intéressant pour nous, pour nos rapports personnels. Bon, on a tourné avec du matériel 1 pouce relativement professionnel. En circuit fermé, on a une image meilleure que celle de l'ORTF. Pourquoi? Parce qu'on fait une image de télévision, mais avec une pensée cinéma, si tu veux. On a mis des objectifs Pentax qui ne sont pas spécialement extraordinaires, mais qui, sur une bonne caméra de télévision, donnent un résultat meilleur que le zoom ingénieux le plus perfectionné sur la plus grosse caméra Thomson. Parce que c'est pensé autrement. Éclairer trois floudes ou un truc low and light sans, parce qu'on n'est pas capable encore d'éclairer, on en est au début. Et ça, je trouve très intéressant de commencer à travailler un peu la télévision, c'est de récupérer nous-mêmes l'éclairage et de ne pas laisser le spécialiste, ou de s'en passer, de manière que quand le spécialiste viendra, il soit forcé un peu de travailler autrement. Ce film serait produit, bon, pour l'instant j'habite Grenoble, ce film serait une production de la municipalité de Grenoble, coproduite avec moi par exemple, avec d'autres cofinanciers, passe à Grenoble sur le câble. Après, on peut le vendre suivant les moyens cinéma, où on passe, s'il intéresse plus de gens. Mais c'est un film, bon, là on a dépensé joyeusement, comme vous avez dit, vraiment, on a dépensé votre argent joyeusement. Mais on aurait eu que... J'aurais préféré, à la rigueur, car même pas à la rigueur, j'aurais de beaucoup préféré que M. Béthou, M. de Beauregard, arrive à installer un système où ce film-là ne devrait coûter qu'une quinzaine de millions en CNR, et non pas 60, mais parce qu'il ne doit en récupérer que 20 ou 25 après. Et pour ça, il faut trouver un autre système. S'il ne coûte que 15 millions, on peut tout à fait le faire, car on est tous royalement payés là-dessus. Très bien. Moi, j'ai pu débaucher un ouvrier un technicien de chez Hitachi en lui disant, on te paye ton salaire 2 ans d'avance. Et on te double ton salaire. Pour moi, ce n'était pas une grosse somme, c'était 10 millions. Bon, ben ça allait. Qu'est-ce que c'est que 10 millions sur 60 millions? Ça va très bien, puisqu'on peut faire le film pour 20-25. Bon, l'ennui, c'est qu'effectivement, c'est un peu... trop d'argent de demander à M. Béthou et M. de Beauregard pour ça. Il faudrait mieux 20 ou 25, et puis dire, mais vous-même, faites pour 25 millions d'efforts. Alors, ce qui ne va pas, il y a un film de 60, là, mais en fait, le système dans lequel ils sont, et ce n'est pas dire du mal de vous que de dire ça, vous n'êtes pas capable de faire pour 60 millions d'efforts. Et c'est ça qui ne va pas. Et c'est ça qui ne va pas du tout. Donc, le film... Effectivement, là, on a la production, il n'y en a pas du tout, mais en fait, ce à quoi j'essayais d'échapper en montant ce petit studio en disant moi je veux récupérer la chaîne, je veux au moins voir mon enchaînement, je veux au moins voir mes menottes, je veux au moins voir ma prison. Car avant je ne la voyais même pas et j'appelais ça une prison dorée. Ben, elle est dorée si on veut, mais c'est pas sûr. Donc je veux voir ma prison. Et c'est ça que je voulais.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience avec les mouvements de libération palestiniens?
On a fait un film qui est fini aujourd'hui, qu'on a fait il y a 4 ans. On, c'était toujours Anne-Marie, moi et Jean-Pierre Gorin, on s'est quitté il y a 2 ans. Et ce film, à l'époque, a été fait en coproduction avec l'OLP. Et quelques personnes avaient donné quelques millions anciens, dont Jacques Perrin, dont la Ligue arabe, dont 2 ou 3 personnes. Et puis, ce film s'appelait Victoire. On l'a fini seulement il y a 15 jours. Et il s'appelle aujourd'hui Ici et ailleurs. Et c'est toute l'histoire du film. Comment un film qui s'appelait Victoire, aujourd'hui, plus modestement, s'appelle Ici et ailleurs. Ici, on, français, regardant à la télévision avec des enfants des images de ce qu'ailleurs ils appellent la révolution palestinienne. C'est ça, il passera peut-être au festival de Grenoble, il sera peut-être diffusé avec d'autres petits films qui sont vraiment des films de 2-3 millions anciens qui ne doivent pas coûter plus. Il sera peut-être diffusé dans les salles de la Nef, enfin, ou des choses comme ça, salle d'arrêt, ou du câble, ou sur cassette. Car mon idée pour ces films, comme on n'a pas besoin de récupérer, c'est plutôt de dire, si toi, tu es à Toulouse, tu me dis que tu es prof, tu as envie de le voir ce film, si tu as envie, on t'envoie une cassette, on te la fait payer, voyons. Dis-nous toi-même, puisque tu as envie de le montrer, à combien de personnes as-tu envie de le montrer? Si tu as envie de le montrer à... Tu penses qu'il y a 25 personnes qui sont intéressées. Ces 25 personnes, tu as des raisons personnelles, enfin, disons, personalo-politico, je ne sais pas quoi, de les montrer. Ça peut être aussi bien ta voisine que tes élèves, si tu es prof, que des choses comme ça. 25 personnes, tu ne vas pas les faire payer rien, mais fais-les payer 200 ou 300 balles. Alors, et puis, on te donne le film pour le temps que tu veux, pour ta région, ta ville, ou peut-être même ton quartier. Débrouille-toi à louer un pneumatique Sony. Fais payer les gens 300, 400 balles, le prix que tu décideras, tu discuteras avec eux, mais fais-les payer pour récupérer les 50 ou 60 000 anciens francs. C'est-à-dire, on le force à agir, mais là où il est, en tant que distributeur. Car s'il se veut producteur d'une certaine parole ou d'un certain désir à propos de ça, il doit aussi faire son boulot de distributeur et pas être distribué d'avance. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ce qui ne va pas, en quittant Paris, en montant ce studio, c'est que j'avais une très forte impression, j'avais ma maison de production depuis 15 ans, mais j'étais, comme le sont tout le monde, comme même un type comme Coppola aux États-Unis, qui est son propre producteur, qui gagne beaucoup d'argent, qui envoie se faire foutre les majors. Mais les majors, qui y a derrière les majors? Il y a la banque Morgan. Derrière la banque Morgan, qui y a? Il y a une plus grosse banque Morgan, enfin, je sais pas. Finalement, un type comme Coppola, la différence avec moi, c'est qu'il est distribué par ces gens-là comme producteur. Nous, ce qu'on essayait de faire, c'est de récupérer notre distribution. Puis déjà de la récupérer au niveau de la production, c'est-à-dire distribuer nous-mêmes notre temps de production. Distribuer nous-mêmes quand on va travailler et quand on n'y va pas. Et quand on ne travaille pas, on voit qu'on s'emmerde. Et quand on ne baisse pas, on voit que ça ne va pas pour le travail. Enfin, des tâches. Mais voir ça, enfin, si tu veux, l'aspect, je ne sais pas, entre la poule et l'œuf, ou entre la distribution et la production, ce qui vient avant, ce n'est pas discuté comme ça, mais nous, il fallait récupérer, c'est-à-dire dépenser, et notre gain, le penser autrement. Et déjà, notre niveau de production, effectivement, un niveau plus vaste, là où on est dans un système intégré, on vit en France, qui est elle-même en Europe, fait partie, encore de l'Alliance Atlantique, etc., le pétrole, tout ça, on voit que... essayez de dire, voilà un petit prototype qui n'est que celui-là, qui est fait par ce mec-là, qui a ce passé-là, associé de temps en temps à cette fille-là, avec 2 ou 3 copains qui ont ce passé-là aussi. Je vous ai dit Anne-Marie, moi ce qui m'intéresse, c'est une jeune mère de famille qui a envie de travailler, qui a connu d'autres gens, etc. Et puis qu'on s'est connu à propos d'un film palestinien aussi, donc il y avait un vague passé commun, et puis on s'estime un peu expatrié. Moi je suis franco-suisse, je suis un peu nulle part, j'aurais pu faire des films en Suisse, j'ai pas pu, d'autres ont pu après, tout ce qu'ont fait les autres, moi j'ai pas pu, donc je suis venu à la capitale m'a complètement pourri, Mais en même temps, m'a aidé. C'était comme un long séjour à l'hôpital ou dans les mots privés. Après, bon, on repart un peu autrement.
Ce n'est pas l'idée originale du film après 4 ans.
Hein?
Après 4 ans, c'est le film terminé aujourd'hui.
Le film numéro 2
le film la Palestine.
Il n'est pas. C'est un film sous la Palestine, c'est pas. C'est un film sur la France qui se trouve sous la Palestine. C'est comme une photo française qui se trouverait sous une photo palestinienne, et puis on la tire comme ça. Vous voyez, il y a une photo. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Il y a ici, puis il y a ailleurs. Puis on tire une photo. Voilà. Et puis il y a les dessous, puis on les monte les deux. Puis on montre aussi qu'à des moments, on a recouvert. On a crié trop fort, c'est la lutte finale. Et puis, je sais pas, on examine. Le son m'intéresse beaucoup. Par rapport à la télévision et du reste, le premier matériel que innocemment je me suis acheté, moi, c'est un Agra avant une caméra. Bon, c'est pas servi, mais enfin, j'ai toujours été accusé, même techniquement, par les critiques dits de cinéma, de faire du mauvais son, par exemple. Et le son m'a toujours intéressé. On voit aujourd'hui, enfin, je ne sais pas ce qui est puissant à la télévision, c'est le son. Et il est d'autant plus puissant qu'il passe par un certain type d'image. De même qu'un syndicat se fait représente un ouvrier, ou qu'un ouvrier se fait représenter par son syndicat, ou qu'un contrat à l'intérieur de ce syndicat, qu'un contremaître peut représenter son patron, ou des choses. Je pense que c'est plus intéressant de parler de ce que les gens appellent image et son pour se comprendre, pour dire qu'il y a ces. Bon, mais que vous dit la direction de l'ERTF? Elle vous dit le royaume de l'image est arrivé. Les médias, les trucs comme ça, on voit bien que c'est le son. Essayez sur un discours de Chirac de couper le son, il vous dira, ça va pas, il n'est pas convaincant s'il n'y a pas le son. Mais c'est quand même la même personne qui vous dira, l'image, mais son, alors il dira, mon image n'est rien. Mais alors on lui dit, mais si ton image n'est rien, pourquoi te montres-tu? Parle à la radio à la rigueur, mais ne te montre pas à la télévision. Et puis, bon, bah, là, comme il a le pouvoir, il nous envoie se promener.
Qu'est-ce que vous pensez de la pornographie?
Ben, si vous voulez, je le trouve moins malhonnête que l'autre. J'ai dit une fois à Nicolas Sédoux, qui est associé qui est directeur de Gaumont et qui nous aide un petit peu, enfin plutôt un peu que beaucoup, mais. Il m'a dit, mais quel genre de film voulez-vous faire, ou des trucs. Je lui disais, mais il y a trois genres de films aujourd'hui. Il y en a deux qui se font et un qui ne se fait pas. Moi, je voudrais faire celui qui ne se fait pas. Alors, quels sont ceux qui se font? Ben, il y a les films qui se font au-dessus de la ceinture, il y a les films qui se font au-dessous. Moi, je veux faire les deux, c'est-à-dire monter, descendre. Pour l'instant, je me serre la ceinture, je fais des films de la ceinture. Alors, dis plus sérieusement, si vous voulez, je trouve les films au-dessus de la ceinture, prenons par exemple Le Temps d'aimer, prenons un film porno comme Les Baiseuses, dit porno, et puis un film dit pas porno comme... C'est Le Temps d'aimer ou Le Droit d'aimer, non, comment ça s'appelle, Zulawski?
L'importance est d'aimer,
bon. Eh ben, moi je trouve, enfin... Alors que dans un sens péjoratif, alors là, ou critique ou injurieux, le vrai film porno, c'est celui qui prétend ne pas l'être et qui est franchement malhonnête. Il y a par exemple un plan où Romy Schneider, bon, je ne me souviens plus ce qui se passe, descend, voit qu'elle se branle un peu, puis je ne sais pas, on reste en bas de l'écran, puis on n'ose pas. On n'ose pas, mais on voit très bien pourquoi on n'ose pas. Parce que certainement, Romy Schneider est une personne plus honnête et plus sincère que peut-être, je ne dirais pas que les actrices qui ont joué dans Les Baiseuses, mais en tout cas que le metteur en scène du film Les Baiseuses ou que le producteur. Mais elle ne l'est pas assez, c'est là que vient ma critique. Car à un moment donné, il n'y a qu'à faire ce plan. Elle n'a qu'à oser se montrer se branlant. Et puis on voit que, je veux dire, on ne peut pas montrer ça comme ça. C'est pas simple et c'est plus compliqué qu'on croit. Et il faudrait étudier la chose, du moins ce que nous faisons. Et qu'après, ne fût-ce que dans sa vie privée, par exemple, ou des tas de choses, après, il faudrait faire d'autres dialogues que ceux qui se font. Et c'est simplement pour ça que le cinéma dit au-dessus de la ceinture ne descend pas au-dessous, car comme il est théoriquement, disons plus, plus intelligent ou plus, qui serait capable de faire mieux. Mais en même temps, il veut garder ses privilèges qui sont les privilèges du tournage, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Ces privilèges, oui, de ce système que moi j'appelle 1, 2, 3, si vous voulez, tant de millions fois tant de personnes, qui fait qu'on est bloqué dans un certain type d'usine, et que comme on est très privilégié, qu'on est un cadre ultra privilégié là-dedans, plus ou moins, on le garde. Même l'opérateur le plus mal payé, ben, à un moment donné, il préfère le reporter comme ça, il préfère pas écrire de texte. Et puis le journaliste du Monde, ben, il préfère pas se fatiguer à faire de photos. Et puis il y en a un troisième qui finalement fait les légendes. Et puis voilà. Dans le Monde, les seules photos qu'on accepte de publier dans le Monde, c'est les photos publicitaires. L'autre jour, j'ai discuté avec lui, je dirais, vous pourrez au moins dire ça. Passer au moins une photo de moi qui disent elle n'est pas publicitaire, mais ils aimeraient mieux mourir. Et alors je lui dis, mais comment pouvez-vous me soutenir que la photo publicitaire que vous écrivez, qui prend quand même une certaine place grande ou petite dans le cadre, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'influence. Et c'est pour ça que cette photo publicitaire est puissante finalement. Le seul endroit où l'image soit plus puissante que le son, mais c'est une image de mort parce qu'elle est non vivante, c'est la photo publicitaire. Mais forcément, parce qu'il y en a partout dans des lieux communs, et que c'est ça qui ne va pas. Et que c'est effectivement les gens, les légendes à la place des autres. Il n'y a même plus besoin de travailler. C'est moi qui ai, je veux dire, la fortune de Bleustein Blanchet ou de M. Toscan du Plantier, c'est quand même moi qui l'ai fait. C'est moi qui, dans un bout de souffle, la seule trouvaille que j'ai fait, c'est supprimer les volets et les fondus et faire que quand un monsieur passait une porte et qu'on le retrouvait dans la cour, que ça ne dure pas un immense fondu, parce que, je ne sais pas, moi, ça m'emmerdait. Tout le cinéma, commencé par Lelouch après, et puis le cinéma publicitaire, est devenu ça. Aujourd'hui, moi, je fais le contraire. Vous verrez dans mon film, il n'y a que des volets et des fondus.
Et l'avenir des comédiens qui travaillent dans ce genre de films, qui sont dans la nature
Mais c'est pas... Mais si vous voulez, c'est autre chose, si vous voulez. Et la position, si vous voulez, l'hypocrisie et la malhonnêteté, disons, la malhonnêteté intellectuelle, mais je ne sais pas, je crois que l'autre réamant a dit une fois que tout le sang, toute l'eau de la mer ne suffit pas à laver une goutte de sang intellectuel. Donc la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là est très grande, ceux qui font ces films dits au-dessus de la ceinture, et on l'a très bien vu lorsqu'il s'agit de supprimer l'aide automatique à ces films-là. J'ai lu un interview qui pour moi est une ignominie pure et simple de Costa Gavras. On sentait très bien que il disait c'est pas juste au nom de ce qu'il appelait la liberté d'expression, il faut quand même laisser car il y aura des abus. Puis il disait ouais mais quand même hein, on peut pas laisser faire ça. Mais à un moment qu'est-ce que c'est que ce mec qui ose pas quand il parle de son visage, qui ose pas à un moment s'y montrer aussi son pantalon. C'est pas facile dans la société dans laquelle on est, mais ça doit pouvoir se faire d'une certaine manière, pour que précisément la pornographie, car qu'est-ce que c'est que la pornographie ? L'amour, ça bouge. La pornographie, c'est rendre immobile quelque chose qui bouge. Et c'est pas possible. Quand il y a deux personnes qui baisent ensemble, il y en a une qui est comme ça, l'autre qui est comme ça, ça fait ça. Comment voulez-vous ? On ne peut pas mettre la caméra dans une pile ou dans un trou, il faut la mettre en dehors. À ce moment-là, c'est un regard qui croise, mais ça ne peut pas être un regard à la place. Or, la pornographie fait croire qu'elle est à la place. Et les gens sont dans une telle misère sexuelle, ceux qui vont les voir, qui sont en principe des travailleurs immigrés ou des vieux qui sont assez honnêtes, qui se marrent. Moi, j'ai une fois été voir un film pornographique, et moi, je n'osais pas voir ça. Puis j'avais honte de moi, il y avait deux vieux devant moi, et qui disait, t'as vu, il lui fout sa pile comme ça, des trucs comme ça. Et, non, mais ils étaient, je sais pas, ils regardaient ça comme un match de foot. Et ils étaient beaucoup moins malhonnêtes que moi. Ou la malhonnêteté dans laquelle j'ai été éduqué, si vous voulez. Et c'est pas, la pornographie est très proche du fascisme. C'est pas par hasard que toutes les bandes porno ou des trucs comme ça, il y en a de plus en plus. Giscard, le 8 mai, au lieu de dire, on fêtera plus la victoire. La défaite de l'Allemagne, on aurait dû dire, mais on va fêter la victoire de l'Allemagne. L'Allemagne serait pensée. C'est Hitler qui a inventé la stéréo et la hi-fi. C'est lui qui l'a dit textuellement. On devrait passer la musique pour qu'on entende par les deux oreilles. Ça serait beaucoup plus fort. Il l'a dit. C'est le créateur de la hi-fi qu'on voit se répandre. On voit se répandre partout. Le marque allemand est plus fort que jamais. Le système allemand est vraiment c'est le triomphe d'un tout autre type de fascisme. Hitler est très intéressant là-dessus. On en parle absolument pas.
À propos de l'Allemagne, et sans prolonger un débat qui pourrait durer très longtemps, ce que vous nous dites en ce moment, car chacun a pu remarquer que vous avez beaucoup fait référence depuis le début de cette conférence de presse aux problèmes sexuels et que vous semblez vouloir en parler plutôt.
Numéro 2 a beaucoup à voir avec ça.
Donc, sans vouloir prolonger ça, je voudrais vous poser une question à propos de l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu vos rapports avec Daniel Cohn-Bendit et les gauchistes ?
Si vous voulez, chaque 22 mars, je pense qu'il y a un type dans le monde qui dit aujourd'hui c'est le jour de Dani, moi j'y pense, je ne l'écris pas parce que je pense qu'il y pense. Il y a des moments où j'aime beaucoup moi penser à des gens sans les voir, ça me soutient beaucoup. Et le seul rapport que j'ai avec Dani, c'est que je n'en avais pas beaucoup. Et puis c'est tout, c'est un type, moi le 22 mars c'est quelque chose et c'est une date pour moi comme la... Enfin, si on appelle, j'appelle pas, je ne tiens pas au jour historique si vous voulez, mais...
Et comme vous voyez, les super-héros et les vidéos au rapport, aujourd'hui au rapport du cinéma traditionnel.
Vous savez, le Super 8, c'est fabriqué par les grandes compagnies pour faire vendre du matériel et comme ça. Moi, je trouve que c'est très... Aujourd'hui, enfin, moi, je suis intéressé à tourner certains trucs en Super 8 ou en vidéo. En Super 8, on peut tourner aujourd'hui avec des caméras normales à 25 images avec un petit Nagra... comme ça, on est en équipement très léger. Je pense que s'il y a 4 ans, il y avait eu les caméras Super 8 qu'il y avait et ce Nagra-là qui puisse fonctionner à peu près synchrone, je serais parti avec ça au Moyen-Orient plutôt qu'avec du 16. Dans la même valise, on peut emporter deux fois plus de matériel. Ou la même chose, et c'est ça qui m'intéresse.
Mais du point de vue du cinéma militant, cinéma idéologique... Qu'est-ce que vous pensez ?
Militer, il faudrait que vous vous demandiez ce que c'est. Moi, je pense que on milite dans beaucoup d'endroits, puis militer dans un pays riche, dans une profession, dans le milieu de l'information, je ne sais pas, un moment. Pour moi, dire à un journaliste qu'il est un criminel à l'endroit où il est, que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'autres crimes que les siens. C'est militer, c'est le seul truc que le monde a pas imprimé. Moi je voulais qu'il titre les journalistes sont des criminels, il a même pas, le monde peut même pas ça. Je considère qu'aujourd'hui que le criminel c'est pas le palestinien qui va dans un cinéma Tel Aviv qui fout des grenades et qui je parle en tant que mec vivant en France, je parle pas en tant que mec vivant là-bas, je sais pas, mais eux ce n'est pas non plus l'israélien après qui le bousille ou qui des choses comme ça. Le criminel, c'est le journaliste qui rapporte l'information dans les termes dans lesquels elles sont rapportées actuellement. C'est le canal. C'est l'endroit où il travaille. J'ai jamais lu un article qui dise « je ». Nous, on commence à dire « je » et moi, j'ai tellement déjà c'était le grand événement de 68 de dire « je » d'une autre. Oser dire « moi, je ». J'ai même un projet de film qui s'appelle « Moi, je » où on ne me verra pas. Parce que je dirais que ce qu'on voit, c'est moi. J'oserais dire, ou je me montrerais à un moment donné, car effectivement, la différence entre moi et Bertolucci, je dis, si je n'ose pas enculer Machine Schneider devant la caméra, au moins j'ose dire que j'ai envie de le faire, puis que c'est ce problème-là que j'ai envie de porter à l'écran. Au moins j'ose le dire, et que Marlon Brando, c'est moi sous une autre forme. À un moment donné, au moins oser dire ça. Au Nord-Vietnam, on a peut-être d'autres choses à dire. Ici, si on fait un film d'un milliard, on peut au moins dire ça.
Est-ce que
voilà
vous direz,
la différence.
Vous direz dans un film, comme vous nous avez dit tout à l'heure, que vous mourrez de ne pas communiquer ?
Absolument. Tout le monde meurt de ne pas communiquer. Et les gens deviennent de plus en plus dingues et explosifs parce qu'ils ne communiquent pas avec les moyens de communication. La presse se lamente, le cinéma se lamente, la télévision se lamente, mais ça va mieux que jamais. Écoutez, il y a quand même un exemple, il y a eu deux exemples absolument merveilleux de, de crimes faits par des innocents, mais par des criminels qui ont été faits par le personnel de l'ORTF et puis par les postiers. C'est la grève de l'ORTF et la grève des postiers. Il y a la grève de l'ORTF. Ils ont le plus énorme appareil audiovisuel du monde. En plus, bloqué dans un seul immeuble. Bon, ils font une grève. Les gens sont privés à la fois de leur Dulux, de leur match de football. Et moi, j'en fais partie. Et ça me faisait chier. Bon, et en même temps, j'habitais la province. Puis je vois que ce qui m'aurait intéressé, que j'aurais même pas réclamé à Paris, parce qu'il y a tellement de choses à Paris qu'on y pense, ce qui m'aurait intéressé, c'est d'écouter ces mecs dire au fond pourquoi ils faisaient grève, même s'ils, qu'est-ce qu'ils voulaient, même s'ils ne savaient pas bien dire. Rien, j'ai vu qu'ils avaient tiré un tract et qu'ils étaient allés le déposer, peut-être avec des banderoles, à l'Assemblée nationale. Donc ces gens, théoriquement, font des images et des sons et ils s'adressent à Gutenberg et ils font un tract. Donc, et puis personne ne lit, effectivement. Ils ne pensent même pas lire. Alors ils demandent l'autorisation ou ils bloquent un bureau pour essayer de le lire. Mais ils n'essayent pas de se mettre tout à coup une monteuse, même deux, même trois, je ne sais pas, qui dire, ben, vous savez, la télévision, on ne sait pas en faire, car ils le pensent. C'est dur comme ça, puis on va faire ça. Moi, peu importe, moi j'aimerais vous parler de mon potager, de ma femme, des élèves. Ils auraient entendu le son des gens qui parlent, au lieu du son de Drucker, du son de machin et du son comme ça. Ils auraient entendu et ils l'auraient respecté, même, ils auraient pu être contre, et ils l'auraient respecté, ils auraient écouté parce qu'il y aurait eu con. Mais ils n'ont même pas pensé, c'est dire la perversion et la misère sociale, même s'ils sont plus ou moins bien payés, dans laquelle ils sont. Quelques mois après, l'exemple contraire, les postiers. Même raison, ils font grève. Alors eux, ils sont dans l'écriture. Mais alors, bizarrement, la seule chose, ils portent des lettres toute la journée. La seule chose à laquelle ils ne pensent pas, et auquel le système les rend incapables de penser, comme il rend Rivette incapable de faire un film autre que celui de Verneuil, ou Truffaut de faire autre chose que la lue américaine. Bon, la seule chose à laquelle ils ne pensent pas, mais c'est simplement d'écrire une lettre. Soit séparément, et puis de la poster, puis dire, ben, vous, pendant une semaine, vous allez recevoir des lettres que de nous. C'est la seule chose. Et puis effectivement, alors on dit ça, on fait des jeux de mots, on est brillant, et puis on applaudit, et puis ça continue. Hein?
Tu ne peux pas tout changer tout de suite.
Oh, bah non. Si on pouvait déjà changer une chose maintenant, bah, pour nous, on a changé, mais c'est tout. On veut rien changer tout de suite.
C'est ce que je remarque, vous êtes seul, il n'y a jamais quelqu'un qui porte une certaine critique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas critiquer à tout prix, mais. Parce que je crois quand même que tu as apporté beaucoup de choses à tout le monde ici. Mais ce que tu dis,
je crois que c'est faux. J'ai absolument rien apporté à personne. J'ai enlevé à un moment donné beaucoup de choses, mais j'ai absolument rien apporté. Non, pas castreur pour les gens qui s'estiment en position d'être castrés, mais pas du tout. Là, on commence à pouvoir apporter quelque chose. Mais c'est tellement peu qu'effectivement on peut. Et ça ne peut pas être bien diffusé. Effectivement, c'est un problème. On doit dire financez-nous car on est de la recherche. Et puis je me suis aperçu de ce truc absolument extraordinaire. On demande, je ne sais pas, comme base de départ, 200 millions pour monter un petit studio, deux ou trois, qu'on peut rentabiliser. Puis ensuite, on le rentabilise par des films, puisque je suis un peu connu, on arrive. Et puis il n'y a rien. On ne l'a absolument pas trouvé. Si Jean-Pierre Rassam n'avait pas donné de sa poche au départ 50, 60 millions, puis encore, comme ça commençait à pas trop bien aller pour lui, il n'a pas pu donner plus. Mais c'est absolument impossible. On a fait le tour de toutes les compagnies. Or, et je me suis aperçu, moi j'ai cru, si tu veux, que c'était de la mauvaise volonté, que peut-être soit moi qui fais peur. Puis je me suis aperçu qu'au contraire, tout le système audiovisuel, alors télévision, cinéma, presse, un petit peu différent la presse, mais disons tout le système audiovisuel, fonctionne sur la dépense. Quand dans le capitalisme, ce qu'il faut, c'est dépenser, il ne faut pas gagner. On gagne ailleurs. Parce qu'effectivement, la rentabilité du système est faite sur un investissement des gens qui dépensent de l'énergie à regarder ça. Et à un moment donné, cette dépense d'énergie d'un mec de chez Renault qui dépense l'énergie à regarder de la télévision, on peut perdre tous les milliards à l'ORTF qu'on veut, mais ça, ces milliards perdus valent une fortune, car le lendemain, ils feront marcher Renault qui représente beaucoup plus comme budget.
je voudrais dire que il n'y a personne qui t'a critiqué de cette salle, parce que tu as toujours une grande, très grande valeur, comment dire, c'est pas valeur du sage, c'est d'autres, valeur d'échange, voilà. Et parce que tu es toujours un mythe, voilà.
Mais, je trouve ça absolument dégueulasse, si tu veux, parce que, par exemple, à Cannes-Marie, enfin, je m'excuse, parler de problèmes personnels, mais on a un énorme problème. Si je vais, par exemple, on va au Mexique, on va essayer de signer un petit film avec le cinéma mexicain. Bon, je suis mitraillé par les journalistes. Elle est rien, elle est considérée comme la bonne amie ou un truc comme ça. Alors, il y a un truc qui ne va pas du tout. Elle est complètement sous-évaluée. Moi, je suis complètement surévalué. Et puis, en plus, comme je suis un mec, j'ai beaucoup de mal après à lui dire, finalement, sous et sur, c'est la même chose. Donc, parlons un peu d'autre chose. Mais, effectivement... Or ça, je me suis aperçu que Godard, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vous. Vraiment, moi, je connais pas vos noms. Et vraiment, il y a un truc qui va pas du tout. Je fais plus de films, vous n'avez pas vu de films de moi, il n'y en a pas la moitié qui ont vu Tout va bien ou des trucs comme ça. Je fais plus de... Vous êtes tout aussi nombreux que si je faisais 1000 films par an, mais c'est absolument... Pourquoi ? Parce que, je sais pas, je fais le truc des autres. Alors moi, je veux bien à un certain moment, mais alors il faudrait que vous fassiez... Commenciez à faire votre truc, mais là où vous êtes. Si vous êtes postier, moi je sais pas, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous êtes journaliste, rien que journaliste, ça j'en ai un certain nombre, par exemple.
Est-ce que dans cette salle, il y a une masse de journalistes qui sont censés avoir la conscience journaliste et pas interroger
Est-ce
qu'il
y a
une masse de imaginons qu'on renverse un peu cette conférence de presse pour aller jusqu'au bout de ce que tu veux déstructurer les chefs, etc. Est-ce que ce soit toi qui nous interroge, c'est bien c'est nous qui...
Mais moi, je peux pas parler à 12 personnes à la fois.
Quelle question tu
J'ai déjà un mal à dire 12 choses à ma fille en un jour, alors c'est...
Si c'était toi qui renversais les rôles, poser des questions aux journalistes.
Mais je veux pas parler de si, parce que dans ces si, c'est pas vrai, je veux parler au moment donné. Si toi je te connais, j'ai lu un bouquin de toi que je trouve pas bien du tout, j'ai pas du tout à parler. Enfin, et comme ça, si tu veux, je peux pas, si on se voit, et puis je me dis, bon, ben, on peut pas tout faire. Si un jour on a le temps, précisément, on récupère un peu notre temps, et puis on veut plus être aussi hargneux. Un truc qui me gêne, par exemple, en ce moment, c'est qu'effectivement, j'ai gagné un peu de temps. J'ai le temps d'avoir, par rapport à Paris, le temps d'aller faire un peu de ski, par exemple. On a choisi une région montagneuse à cause de ça. Enfin, pour moi, en tout cas. J'ai le temps de... Enfin, un peu de temps. Et puis... je me souviens plus ce que je voulais dire.
If you lived in a country like East Germany or Czechoslovakia, where...
I can't answer to question if... Because my... I'm not. If is a. Is not if it's not really. you can't tell me if you were General Dyan, how many tanks? I've not the real power of General Dyan here. I've only the power with those mic to do something with those mic, but not with tanks. So I can't answer, I don't want to answer to question like if. It's dreaming without the real possibility of dreaming. It's pornography.
Je peux vous poser une question idiote, à savoir, quand avez-vous changé de lunettes et est-ce que ça correspond à quelque chose que personnellement, moi qui n'ai pas vu vos films depuis très longtemps, ni vous depuis très longtemps, je ressens, vous semblez beaucoup plus détendu et que le fait d'avoir mis des verres non fumés, alors que c'était très gênant, ça peut paraître secondaire.
Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais vous rendez compte, je ne sais pas, enfin c'est pas pour être méchant, mais je ne sais pas si je serais dans dans un café, je te parlerais comme ça, mais combien, enfin je ne sais pas combien tu gagnes par mois, 200 000 ou 300 000 balles, mais est-ce que tu trouves que... Je sais pas, mais quelle misère de poser à quelqu'un en tant que vedette un truc comme ça que tu poserais peut-être à un ami si tu le connais au bout de longtemps. C'est pas vrai, je suis pas ton ami et on n'est pas dans ces positions-là. Donc, sur le costume, enfin, mais c'est invraisemblable d'avoir à poser ces questions-là. Et tu te rends pas compte combien tu m'humilies d'arriver à
C'est pas une question
de devoir répondre par correction vis-à-vis de Bourgard ou de Béthou, de devoir autrefois Autrefois, oui, c'est ça que je voulais dire. Autrefois, j'aurais répondu ça par une énorme provocation qui ne faisait que montrer soit ma haine, enfin, ou mon désir de, je sais pas, de faire des pieds et des mains pour sortir de ce truc-là, effectivement, d'avoir besoin de... Aujourd'hui, ce que j'ai gagné en récupérant ce temps, si tu veux, c'est que la haine a disparu. Et il est venu plus de douceur et plus de force, mais en même temps, beaucoup plus de faiblesse. Et qu'effectivement, n'étant plus soutenu par la haine, je me sens, pendant longtemps, je me suis senti moi-même aussi fort qu'un Nord-Vietnamien que j'ai toujours beaucoup admiré par rapport aux Américains. Aujourd'hui, je me sens aussi faible qu'un Vietnamien du Sud, si tu veux. C'est ça la différence, c'est ça que m'a apporté, moi, petit soutien à ma place du Vietnam du Nord, c'est de me transformer en faible Vietnam du Sud. Pas très bien savoir, et d'avoir...
Pour sous-tendre simplement le fait qu'on est un certain nombre ici à vous être reconnaissant de parler comme vous le faites, et que si peut-être on se souvient tous d'Abou de Souf il y a 15 ans, et si ça nous a tous marqué, quelqu'un a dit le pouvoir du mythe, c'est peut-être parce que justement il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu le courage de le dire et de le faire comme vous l'avez fait. Donc ma question n'avait rien d'injurieux, c'était simplement parce que vous nous apparaissez, en tout cas à moi, plus détendu, mieux dans votre peau et vous situant mieux dans la société. C'est quand même quelque chose d'important pour un cinéaste. Important pour un cinéaste qui, pour des gens de ma génération, a été important.
Non, la vie, pas la société.
On n'a jamais aimé la société.
Une question qui ne va pas dans le sens là, c'est est-ce que vous ne pensez pas que tout ce que les gens ont écrit sur vous, d'une manière empirique ou réelle, je ne sais pas comment, pendant des années, vous n'avez pas encore plus de travail maintenant pour faire un travail juste?
Exactement comme le mythe de Rimbaud, on a écrit plus sur le mythe de Rimbaud que sur Rimbaud.
Non, mais je ne sais pas, je suis d'accord.
C'est le mythe de Godard, c'est le mythe de Rimbaud. On a écrit sur le mythe de Rimbaud. Moi, je ne
sais pas la question.
C'est la même chose.
Est-ce que vous ne voyez pas,
en fabriquer des films moins chers, mais à la recousse du capitalisme qui, en ce moment, arrive à avoir une économie un peu malade? Et que je me demande si, en proposant des films moins chers, en ayant en conservant la plus-value, n'êtes pas en train de proposer un certain nombre de recettes aux gens qui sont là pour faire des films encore moins chers et gagner encore plus d'argent.
Ah non, moi je propose de faire des films moins chers pour qu'ils gagnent moins d'argent. Mais effectivement, c'est ça, les gens n'ont pas envie de gagner. Alors, j'essaye de ruser avec eux en leur disant, mais comme vous en ferez beaucoup, vous en gagnerez autant, vous perdrez sur le détail, mais vous rattraperez sur la quantité, mais ça ne marche pas. Effectivement, je dis à Bétou, ben, pourquoi vous ne faites pas 6 films de 10 millions plutôt qu'un film de 60 millions? Et puis, je ne sais pas, il doit quand même être un peu plus capitaliste que moi, parce qu'il n'est pas d'accord. Et puis, non, si jamais ça... Si vous voulez, moi ce que je voudrais, c'est par rapport à la production et la diffusion, pour moi en tout cas, alors je ne prétends pas du tout, je dis pour moi, ce qui n'allait pas, c'est qu'il y avait une disproportion énorme entre le gain et la dépense, et tous les types de gains, qu'ils soient monétaires ou psychologiques. Et à un moment, de rééquilibrer un peu ça, de rééquilibrer la production et la distribution. Bon, à un moment, contrôler la distribution, bon, ce n'est pas la contrôler puisque là, le film est vendu à l'étranger ou en France par mes coproducteurs, mais c'est déjà contrôler mon temps. Pour moi, j'en suis fier, si vous voulez, mais je ne tiens pas à le dire, mais je suis fier, effectivement, d'avoir pu, pour la première fois, avoir 60 millions, puis quand même 60 millions, hein, c'est, je ne sais pas, c'est pas beaucoup pour faire un film, mais pour s'acheter une voiture, c'est pas mal, par exemple, ou pour s'acheter une caméra, ou pour aller en voyage de noces, je ne sais pas. Ben, le film, on peut le faire d'après ça, par exemple. D'avoir 60 millions en disant simplement je vais refaire, de n'avoir pas à écrire, pour moi c'est énorme. Et puis ensuite de dire, tiens, ben, puisqu'on va refaire autant en faire deux, comme ça on sera plus sûr. Comme ça, moi ça me fera non seulement 60, mais 120. Bon, 120 c'est pas grand chose, me direz-vous, mais pour acheter une voiture c'est déjà mieux que 60. Ou pour aller en voyage de noces c'est déjà mieux que 60 aussi. Donc 120 c'est toujours mieux que rien. D'avoir pu dire simplement, tiens, et puis si après celui-là, on a un film qui s'appelle, je sais pas, ben, comment ça va? Ah ouais, d'accord. Ben, c'est le premier film dans l'histoire du cinéma, et ça, ben, j'en remercie même, parce que c'est, il faut des types un peu fous, puis je préfère les fous que les gens... les gens à la Fourcade, à la Giscard ou des choses comme ça, des types un peu bon qui vivent pas ma folie, mais au moins c'est plus franc, c'est pas hypocrite, ben, je préfère. Et c'est assez unique car tous les gens, je les vois peiner comme des malheureux, et puis toujours critiquer, mais critiquer à l'endroit où eux ne font pas justement le truc qui, s'ils faisaient, ils n'auraient plus à critiquer. Et ils auraient le droit de critiquer autre chose, mais ils ne le font pas. Alors, le cinéma va mal? Il n'a jamais mieux été. Ce qu'il y a d'intéressant dans le cinéma, c'est que c'est du chômage perpétuel. Or, c'est intéressant, le chômage et le fascisme sont profondément liés. Le cinéma est un truc, mais dès l'invention, enfin... 3 ans après l'invention, dès qu'il a été un peu commercialisé par Méliès, c'est en ce sens que Méliès est intéressant, non pas du tout parce qu'il a filmé le voyage sur la Lune, et là c'est peut-être en annexe, mais ce qu'il est intéressant, c'est que c'était le premier distributeur de France, Méliès, avant même Charles Pathé. Tout ça, bien sûr, les histoires du cinéma n'en parlent pas. Bon ben nous, c'est ça qu'on veut montrer. Vous arrêtez quand vous voulez. Hein.
Oui, est-ce que je peux te demander, en ce qui concerne la notion de cinéma d'auteur que tu as défendu et illustré depuis le premier titre, est-ce que compte tenu de ce que tu viens de dire, en ce qui concerne la maîtrise de la déclaration au niveau du matériel, au niveau économique, est-ce que tu considères que tu as réalisé ou que tu réalises
Mais c'est pas la maîtrise, c'est absolument pas la maîtrise, c'est s'apercevoir qu'il faut apprendre quelque chose, je veux dire, comme apprendre à faire la salade ou des choses comme ça, et c'est ça qui est intéressant, qu'on n'en est pas du tout au stade de la maîtrise, précisément parce que c'est dans tout un système. On peut maîtriser un peu, moi il y a plein de choses que je maîtriserai jamais, mais déjà c'est une maîtrise, moi je parlerai plus d'une maîtrise, enfin je sais pas, de sentir plus de... Bon, si tu veux dire maîtrise, de savoir servir d'un tout petit appareil comme ça à la rigueur, de pouvoir le repiquer sur fait, bon, mais ça c'est du... Mais pas moi uniquement, la maîtrise, elle vient plus du fait que, je sais pas, il y a... Est-ce que deux ouvriers qui font, à un moment donné, qui font arrêter la chaîne, au moment où ils la font arrêter, ils n'ont pas le sentiment de la maîtriser? Ben, j'en suis là. On a la chance, enfin peut-être, de pouvoir, vu que c'est un type très particulier de chaîne, mais que sans jeu de mots, c'est un endroit où il y a aussi des enchaînés, et puis des enchaînements et un certain type de chaîne, un certain processus. Effectivement, on peut faire des bouts de repartir la chaîne, sans devoir forcément tout de suite devoir livrer une voiture ou des montres comme Lip. Lip, la seule chose qu'ils ont refusé, c'est quand un émir d'Arabie leur a dit « Tenez, voilà le pognon, puis l'usine vous appartient. Moi, vous me verserez tant pour cent. » C'est la seule chose qu'ils ont refusé, parce qu'il fallait... on n'habite pas autrement une usine, on ne fait pas repartir une chaîne en sens inverse ou d'une autre manière, on ne recrée pas la vie. L'ADN, l'ARN, c'est une chaîne. On ne fait pas repartir les choses comme ça, c'est tout à fait normal, ça, juste pour te dire, on ne maîtrise pas du tout. C'est arrêter quelqu'un truc, puis s'apercevoir qu'on n'en meurt pas. C'est ça, déjà ça, s'apercevoir, ben moi c'est assez exceptionnel. Pendant longtemps, j'ai vraiment cru que ce n'était pas possible de faire du cinéma autrement qu'à Paris. Pourquoi j'étais allé à Paris? Moi j'étais suisse, ça allait. Et puis vraiment, j'ai écumé pendant 3 ans, 4 ans, la Suisse. Et puis, je ne sais pas, c'était trop tôt, c'est venu après que j'ai eu du succès. Tant mieux, mais effectivement Paris n'est pas ma ville, mais elle a fini par le devenir, et puis j'en étais malade, mais j'ai mis 15 ans, puis il a fallu une femme qui elle-même était par erreur mariée avec un Parisien et qui était là comme une Palestinienne peut être à je sais pas où, aux États-Unis ou des trucs comme ça, pour avoir le désir de partir, et puis après le désir, il faut les moyens de ce désir, donc ça, alors on peut appeler ça militer à sa manière si tu veux, en écoutant un peu d'autres trucs.
Je voudrais préciser ce que tu dis tout à l'heure parce que ça n'a pas été compris du tout. C'est que maintenant, quand un produit existe cinématographique, avant qu'il atteigne le spectateur, il y a d'autres passages qui sont la presse ou la publicité. Et que cette presse, au lieu de faire parfois l'information, fait obstruction et détourne le produit de ce qu'il est à l'esprit des gens.
Si c'était que pour le cinéma, ça ne serait pas très grave.
Alors justement, par rapport à tout ce qui a pu être écrit avant, disons la phrase qu'on a cru politique, parce qu'elle est directement dite comme politique, et puis les autres manières, maintenant, une forme de presse comme celle-ci, de l'information directe sur l'économie qui me semble importante dans votre projet, est faussée par les questions d'ordre soit presque végétarien ou pas du tout d'autre part d'ailleurs, et qui a lieu comme ça, vous ne croyez pas que ça va encore une fois, disons, retarder le travail juste?
Ah, mais certainement. Moi, le seul truc qui m'emmerde, c'est si numéro 2 a du succès, et le seul truc qui m'emmerde, c'est s'il n'en a pas.